Amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir en effet la parole de notre Seigneur dans le deuxième livre des Rois. Nous lirons au chapitre 23, du verset 1er jusqu'au verset 25. Deux Rois, chapitre 23, verset 1er. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans le champ du Cédron et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient les tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient les parfums, depuis Geba jusqu'à Beersheba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nathan Melech, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kemosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, quel est ce monument que je vois ? Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ses eaux. » On conserva ainsi ses eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. » Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les théraphim et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Amen. Alors ce texte peut paraître, au premier abord, un petit peu long, fastidieux, mais il nous parle de choses extrêmement importantes, en particulier de la bonne manière de revenir à Dieu, dont, d'après ce verset 25 que j'ai relu, Josias est vraiment un exemple remarquable, un modèle à examiner, à suivre et à imiter. Vous savez que la parole de Dieu ne dit rien de trop. Tout ce qui est écrit, jusque dans les plus petits détails, a été écrit pour notre instruction. Et c'est pour ça qu'il nous faut nous attacher à ce qui est dit là et qui, je crois, est très significatif aussi pour nous. Et nous pourrons donc voir successivement plusieurs points en ce qui concerne la bonne façon de revenir au Seigneur pour être béni par lui. Ça commence donc par l'écoute de la parole de Dieu, ce qu'ils ont fait, que vous voyez au début de notre passage. Ça se poursuit par la réalisation d'une alliance. Et puis en troisième, ça se continue par un grand nettoyage des idoles. Et puis en quatrième, cela s'accompagne de grands encouragements de la part de Dieu, c'est ce qu'on voit aussi dans notre passage, et cela fait réaliser comme jamais l'œuvre du Seigneur et en recevoir donc les pleines bénédictions. Alors voyons ces choses successivement. Déjà, ça commence par l'écoute de la parole de Dieu tout entière, c'est ce qu'on a vu dans les versets 1 et 2. Donc, considérez que ces gens, ce peuple d'Israël dont il est question là, n'étaient pas des gens sans religion. Vous savez, les Israélites ont toujours été, jusqu'à aujourd'hui, parmi les peuples les plus religieux de la terre. Donc des gens qui ont toujours eu toutes sortes d'aspirations spirituelles et ou religieuses. Et considérez, je dirais même, que ces gens n'étaient pas sans religion biblique. Donc de nombreux aspects de leur culte, de leurs cérémonies religieuses, de leurs règles de vie, avaient pour base les ordonnances de l'Écriture sainte, de cette parole de Dieu, en particulier ce qui avait été prescrit à Moïse. Mais ils avaient rajouté toutes sortes de traditions de leur propre initiative, de leur propre invention. Considérez malgré tout que tout cela, eh bien, toute cette religion qu'ils avaient, eh bien, c'était alors extrêmement insuffisant, au moins insuffisant pour plaire à Dieu. Et j'irais malgré leur religion biblique, Dieu était dans cette situation en colère contre eux, parce qu'ils étaient très éloignés de lui, ils étaient même contre lui. Et pour revenir à lui de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur force, il fallait autre chose que ce qu'ils avaient. Et cette autre chose, c'était le retour à la parole de Dieu. Voyons qu'ils ont écouté la parole de Dieu, et en particulier, ils ont écouté le livre de l'Alliance dans son entier. C'est quoi ce livre de l'Alliance? Mais dans nos Bibles, ça correspond au livre du Deutéronome. Donc voilà, et dans ce livre du Deutéronome, vous trouvez d'une part les lois de Dieu, une récapitulation des lois de Dieu, d'autre part l'exposé de l'alliance, du contrat que Dieu nous appelle à faire avec lui et qui est basé donc sur ses lois, et puis d'autre part encore, bien dans le livre du Deutéronome, c'est le choix qui est à faire qui est aussi bien mis en évidence. Et puis après, ben, les conséquences du choix qu'on fait, soit en bénédiction, soit en malédiction. Et c'était cette parole de Dieu-là précisément qui avait été perdue depuis longtemps et qu'ils avaient retrouvée donc dans le temple peu de temps auparavant. Et maintenant, ils l'écoutaient et c'était cela qui allait leur permettre de revenir au Seigneur de la bonne façon, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et je dirais qu'aujourd'hui, il en est de même. Aujourd'hui, il en est de même parce qu'on peut avoir une religion, c'est vrai. Avoir une religion, on peut même s'y tenir. On peut avoir une religion biblique, avoir une religion dont on suit les règles, les ordonnances, même une religion très évangélique, tout à fait. Mais pour être béni par Dieu, il est évident que cela est insuffisant, très insuffisant. Dieu demande plus, ou même plus exactement, Dieu demande autre chose. Ce que Dieu bénit, ce que Dieu considère dès le départ, c'est la valeur de l'écoute et de la bonne réception de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est marqué « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». C'est pour ça qu'il est dit encore, il est parlé de ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. C'est le Seigneur Jésus qui dit cela. Hein. Dans le livre des psaumes, nous lisons, parlant, le psalmiste parle au Seigneur et lui dit « Tu éveilles chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples ». Alors, eh bien, que nous-mêmes, nous puissions donc nous attacher avant tout à cette parole de Dieu pour la serrer dans notre cœur, pour la méditer, comme il est marqué encore dans l'épître de Jacques, « Désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. » Et puis, notre deuxième grand point que nous trouvons dans notre texte, verset 3 maintenant, c'est que le fait de revenir à Dieu de la bonne façon se poursuit par la réalisation d'une alliance. Hein, ils ont fait une alliance. Ils font une alliance avec Dieu, donc une alliance qui est basée sur cette parole qu'ils ont écoutée précédemment et, ou qu'ils sont en train d'écouter. Et quels sont les caractères de cette alliance ? Que nous trouvons donc dans ce texte et dont Josias est pour nous un exemple. Déjà en premier, il s'agit d'un engagement. Cette alliance, c'est un engagement. Ce n'est pas juste une intention, même si l'intention a sa valeur aussi, mais il faut que les choses aillent plus loin. Alors, il s'agit effectivement d'une prise de position, une décision qui va amener la personne qui prend cet engagement, qui fait cette alliance, à certains choix, certains efforts, certaines mesures pratiques qui vont opérer des changements dans sa propre existence. Ensuite, cet engagement, c'est un engagement à suivre l'Éternel, est-il dit, de notre passage. Parce qu'auparavant, vous savez, ils suivaient les avis, les opinions des uns ou des autres, ils suivaient telle ou telle voie qui lui paraissait bonne, ils suivaient ses désirs, ils suivaient ses inclinations, mais maintenant, il va suivre le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va être son guide, qui va être son conducteur, et c'est lui qu'il va vouloir suivre primordialement, voire exclusivement. Et puis nous poursuivons encore, en voyant que cet engagement à suivre l'Éternel, c'est un engagement à une entière obéissance. Une entière obéissance à la parole de Dieu. Non seulement obéir, je dirais, d'une manière sélective, en suivant ce qui lui paraît bon et légitime, et mettant le reste de côté, non. Mais maintenant, c'est une obéissance entière. Même peut-être si on ne comprend pas forcément certaines choses pour l'instant. Donc, même si on ne saisit pas forcément toutes les raisons pour lesquelles Dieu nous demande ceci ou cela, mais on fait confiance à la bonté et à la sagesse de Dieu qui ne nous demandera que des choses justes et des choses légitimes et qui nous donnera l'explication en son temps. Amen. Et puis, il s'agit aussi d'un engagement à obéir à toute la parole de Dieu. Ça aussi, c'est ce qui ressort de notre texte. Hein, parce que à quoi servirait-il d'écouter la parole de Dieu si c'était ensuite pour s'en détourner, pour oublier aussitôt ce qu'on a lu ou entendu à ce sujet ? C'est pour ça qu'il est écrit encore « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ou encore, l'apôtre Paul dit à Timothée « toute écriture est utile pour exhorter, pour convaincre, pour corriger, pour consoler, pour instruire dans la justice. » Alors ayons à cœur de suivre la totalité de ce que la parole de Dieu nous dit, parce que c'est de cette façon-là que Dieu pourra totalement et pleinement bénir. Amen. J'avance encore, il s'agit aussi d'un engagement à obéir de tout son cœur et de toute son âme, non seulement, je dirais, d'une manière extérieure, d'une manière visible peut-être, mais superficielle, et je dirais que là vous avez encore cette grande différence entre la religion morte et la piété vraie, la piété vivante, parce qu'on peut avoir certaines apparences d'obéissance, c'est vrai, mais ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est quand cette obéissance est faite par conviction, par amour pour lui, et que c'est ainsi qu'elle va pouvoir être fidèlement maintenue avec le bon état d'esprit et la bonne disposition. Amen. Et puis, il s'agit encore d'un engagement à la mise en pratique. Voilà, Il faut que cela débouche sur quelque chose de pratique, sur des réalisations tangibles. Il ne faut pas que ça en reste simplement au stade des bonnes intentions. Et c'est ainsi que le Seigneur pourra bénir le travail de nos mains et accorder une récompense pratique aussi avec ceux qui agissent fidèlement pour sa cause. Amen. Une dernière chose enfin, de ce point de vue-là, il s'agit d'un engagement public. Vous avez vu dans ce verset 3 que le roi se tenait sur l'estrade, donc, et tous l'ont vu prendre cet engagement. Ils l'ont vu prendre cette décision. Et c'est d'ailleurs aussi publiquement que les autres sont entrés dans cette même alliance. Vous savez, Dieu aime ceux qui prennent le drapeau de l'Évangile et qui l'agitent haut élevé pour sa cause. Dieu aime cela. Hein. Le Seigneur Jésus a dit qu'il confesserait devant le Père ceux qui n'ont pas eu honte de lui et de ses paroles devant les hommes. Hein. Donc rappelons cela. Et il mettra sa bénédiction, il mettra son approbation sur eux et sur leur témoignage. Amen. Voici donc la façon dont Dieu désire que nous aussi fassions cette alliance avec lui, cette alliance qu'il va pouvoir honorer et bénir. Et si je poursuis maintenant, eh bien, mon chapitre suivant, qui va du verset 4 au verset 20, nous n'allons pas le relire, mais c'est ce grand nettoyage des idoles. Cette description est longue, parce qu'il y avait beaucoup d'idoles qui devaient être enlevées. Et ça aussi, c'est une image du grand nettoyage qui doit se faire dans nos cœurs, qui doit se faire dans nos vies, quand nous voulons, quand nous disons faire une alliance avec Dieu. Et chacune de ces opérations, dirais-je, de purification, de destruction de l'idolâtrie, qui sont décrites là, dans notre texte, avec bien les détails, ça nous parle aussi de domaines spécifiques de notre propre vie, dans lesquels aussi il nous faut bannir cette idolâtrie. Et ça peut aller loin des fois, hein. Dans certains domaines ça peut aller loin, parce que, ben oui, il peut s'agir de mettre radicalement en question des fonctionnements, des opinions, des pensées, même que bien des hommes autour de nous peuvent avoir de façon générale. Il s'agit en fait d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, comme nous dit l'apôtre Paul. Alors pour commencer, au verset 4, nous voyons qu'il a été question de purifier le temple de l'Éternel. Il ne fallait pas qu'il reste dans la maison de Dieu aucune idolâtrie dans le culte rendu à Dieu, dans les choses de Dieu. Alors ça peut paraître évident quand on y pense, et pourtant il était nécessaire pour Josias de faire ce nettoyage. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon, par exemple, hein, donc on ne peut pas servir Dieu et les idoles, on ne peut pas servir deux maîtres. Hein, mais que l'Éternel soit adoré, que l'Éternel, que le Seigneur soit servi lui seul. Par exemple, on ne peut pas avoir la parole de Dieu avec, je ne sais pas, un autre livre auquel on donnerait une valeur comparable. Ce n'est pas possible cela. Ou alors la parole de Dieu avec, je dirais, une série de traditions, qui entrent en contradiction avec cette parole. Hein. Mais il faut que ce soit le Seigneur et sa parole lui seul. Amen. Et puis si je poursuis, vous avez eu au verset 4 encore la destruction de l'idole de Baal. Alors Baal, c'était une idole qu'on adorait sous différentes formes. En particulier, vous aviez Baal Gad. Baal Gad, ça veut dire « Dieu de la prospérité » ou « Dieu de la chance ». Voilà. Alors qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas une telle idole aujourd'hui dans la vie de beaucoup. Vous avez beaucoup de gens, ils vivent pour la prospérité avant tout, pour la course à la prospérité matérielle, au nom de laquelle ils sont prêts à faire beaucoup de choses, en particulier à sacrifier la recherche des choses de Dieu et l'amour de Dieu, et voilà, vous avez ça. Hein. Et puis vous avez encore aussi bien des gens qui y comptent encore sur la chance. La multiplication des jeux de hasard de toutes sortes, hein, le grand succès qu'ils ont, on le voit, n'est-ce pas encore là pour le prouver, entre autres signes. Hein. La réalité, vous savez, c'est que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est cela. Hein, combien il est vrai qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et combien donc cette idole dont on vient de parler doit être abattue et que nous puissions là aussi chercher le Seigneur de tout notre cœur en priorité. Au verset 5, la deuxième partie du verset 5, vous avez eu la destruction de tout ce qui se rattache à l'astrologie et à la divination. Hein, ça aussi. Donc, pourquoi est-ce que la Bible est tellement contre ces choses-là? tellement contre l'astrologie, tellement contre la divination, tellement contre ces choses occultes. Pourquoi ? La raison principale, c'est parce que ces choses-là nous enlèvent toute liberté de choix. Comme si tout était fait d'avance, comme si notre avenir était écrit, tracé, fixé à l'avance. Or, tout le message de la parole de Dieu, et en particulier le message du Deutéronome, qui est le livre de l'Alliance, va dans la direction opposée, va dans la direction contraire, parce qu'elle nous dit que c'est nous qui sommes libres. Elle nous dit que c'est nous qui choisissons, que c'est nous qui volontairement décidons d'obéir à Dieu ou de ne pas le faire. C'est nous qui, de notre propre gré, entrons dans le chemin de la bénédiction ou ne le faisons pas. Et c'est pour ça que vous arrivez à la fin du livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il est marqué là, « Voici, j'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, choisis !» Voilà ce que nous dit Dieu. Il nous invite à choisir la vie, bien sûr, hein. Mais il ne nous force pas, il nous laisse libre de faire ce choix-là. Il veut que nous gardions cette liberté. Et c'est pour ça que la pensée du contraire, la pensée qui consistera à dire que tout a déjà été choisi, tout est déjà tracé d'avance, comme justement la divination et l'astrologie le prétendent, eh bien, entre autres, hein, donc, eh bien, ça amène finalement à accuser Dieu quand il y a des problèmes. Hein. Ça amène finalement à décharger les gens de leur responsabilité. Ben, c'est tellement facile de dire, mais c'est pas de ma faute, j'y peux rien, puisque tout était tracé d'avance, voyez-vous. Or, l'Écriture n'est pas du tout d'accord avec cela, et ça doit être rejeté comme une idolâtrie néfaste, ce qu'elle est en réalité. Et puis vous avez au verset 6 et 7 la destruction de l'idole d'Astarté. Et ça nous rappelle, surtout je dirais dans ces temps de confusion et de mélange dans lesquels nous sommes aujourd'hui, qu'il n'est pas possible de servir Dieu et de mener une vie impure et souillée comme ces idolâtres le prétendaient pour leur part. Vous savez, l'Écriture nous dit que Dieu ne manquera pas de juger les débauchés et les adultères. Hein, la parole de Dieu, là aussi, est claire. Et c'est un point, comme sur ce point, comme sur les autres, il est nécessaire de s'attacher à des relations saines qu'enseigne la parole de Dieu, à la fidélité dans le couple et à tout ce qui doit y préparer. Et voilà encore une idole qu'on ferait bien de faire tomber aussi avec le secours d'en haut. Et si je poursuis, vous avez eu la destruction des hauts lieux, au verset 8 et 9. Qu'est-ce que c'est que ces hauts lieux ? Ces hauts lieux, c'est des endroits dispersés en Israël, comme leur nom l'indique, souvent un endroit élevé, sous un arbre plus ou moins sacré, enfin voilà, quelque chose comme ça, où les gens faisaient leur temple. Et ils disaient, voilà, je vais adorer Dieu là. Je vais adorer Dieu, moi, dans cet endroit. Et puis un autre disait, il en faisait un haut lieu à l'heure, il disait, moi, je vais adorer Dieu dans cet endroit. Voyez-vous ? Il disait qu'il voulait adorer Dieu. Mais, voilà, ce qu'ils voulaient, c'était adorer Dieu à leur manière, comme ça leur plaisait. Ils se faisaient leur petite religion personnelle. Et là encore, c'était évidemment le contraire de ce que Dieu avait ordonné, puisque Dieu disait qu'il fallait monter à la maison de l'Éternel et qu'il fallait s'attacher au peuple de Dieu pour louer le Seigneur avec eux. Et je dirais que voilà dénoncé encore cette idole de l'individualisme qui pousse chacun à faire ce qui lui semble bon. Cette idole qui est tellement facilement dans le cœur de l'homme, donc qui lui fait s'imaginer qu'il peut rendre un culte à Dieu, voilà, en restant chez lui, à sa propre façon. Hein ? Pourquoi irais-je à l'assemblée ? Pourquoi ne pourrais-je pas rester chez moi, prier chez moi seulement ? Alors, que chacun prie chez lui, seul, avec ardeur, hein, il n'y a aucun problème à ce sujet. Mais l'Écriture nous dit qu'il nous faut prendre garde de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux que l'idole soit brisée, qu'on s'attache au Seigneur et qu'on s'attache au corps de Christ aussi de tout son cœur. Amen. Et puis vous avez aussi la destruction de l'idole de Moloch. Ça, c'est au verset 10, hein. C'est-à-dire qu'on faisait des sacrifices d'enfants consumés par le feu. Quelle horreur, hein ? Quelle horreur ! Donc, une horreur qui, sous diverses formes, se pratiquait dans toutes ces nations. Kemosh, le bien nommé, et Milcom, donc, au verset 13, étaient des adaptations locales de Moloch. Hein ? Donc, c'était cela. Et n'y a-t-il pas là aussi, mes amis, une idole à abattre ? Que d'enfants qui sont sacrifiés au plaisir, à la légèreté, au travers des avortements. par exemple, hein, ou bien que d'enfants qui sont victimes de séquelles, de traumatismes, les divorces, les abandons, etc., et cette évolution des mœurs qu'on devrait plutôt qualifier de régression des mœurs, hein. Donc ça amène, là encore, à dénoncer une idole qui, elle aussi, doit être détruite avec le secours de Dieu. C'est aussi une grande réalité. Et puis vous avez eu la disparition des chevaux et des chars consacrés au soleil. Là nous sommes dans le verset 11. Le soleil, surtout dans ces régions du Moyen-Orient où il est très présent, le soleil c'est ce qui frappe les yeux, évidemment. Hein. Ça représente le culte de ce qui jette, le culte des apparences. On lui consacrait des chevaux et des chars, image de puissance, image de gloire. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, dit l'Écriture, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est vrai. Et Dieu avait ordonné, rappelez-vous, il avait ordonné ça à Josué, même à d'autres, il avait ordonné qu'en cas de victoire sur l'ennemi, il fallait détruire les chars ennemis, et il fallait couper les jarrets des chevaux. Pourquoi ? Bien parce que, Il fallait que ceux qui avaient obtenu la victoire par le secours de Dieu, sur ces moyens plus puissants qui étaient en face d'eux, eh bien, ne tombent pas dans le piège de se confier dans ces moyens-là. Ne tombent pas dans le piège de se confier dans les apparences, hein, dans les manifestations de puissances humaines. Et c'est vrai que là aussi, on peut le voir, Dieu voulait donc que son peuple se confie en lui et pas dans ces choses-là et pas dans ses apparences. Et pourtant, voyez comme les hommes cherchent là, moi je ne sais pas, là encore, quel attachement aux apparences, hein, que ce soit l'apparence vestimentaire, que ce soit la belle voiture, que ce soit la belle réputation, que ce soit la belle maison, que ce soit voilà, une religion respectable, par exemple, je ne sais pas, hein. Mais que de choses donc qui empêchent les gens de se tourner vers Dieu, de se convertir, non pas les choses en elles-mêmes, mais leur attachement. Hein. Le problème, c'est pas l'argent, le problème, c'est l'amour de l'argent. L'argent peut être un très bon moyen de faire beaucoup de bonnes choses, mais l'amour de l'argent, dit l'Écriture, est une racine de tous les maux. Et voilà le problème devant lequel on est, voyez l'idolâtrie. Et puis vous avez une autre chose encore, du verset 12 au verset 15, la destruction de ces idoles qui avaient été élevées par les anciens rois d'Israël. Eh oui, vous avez des noms aussi célèbres à ce moment-là dans l'histoire de ce peuple, pour eux en tout cas, que ceux d'Akaz au verset 12, de Manassé au verset 12, de Salomon même au verset 13, de Jéroboam au verset 15. Et ces noms-là, eh bien, ils allaient être remis en question si on touchait à leurs idoles, voyez-vous, si on touchait aux preuves des cultes qu'ils avaient rendus. Et voyez-vous, c'était la tradition historique que personne n'avait jamais osé remuer qui était remise en question là, on le voit. Mais il fallait qu'il en soit ainsi, car quel moyen de malédiction pour des générations successives que ces anciennes traditions, parce qu'ils avaient été désobéissants à Dieu et désobéissants à la parole de Dieu. Et même si ces traditions ont pu être établies par des hommes célèbres, par des hommes prestigieux, il fallait que cette tradition des hommes, du moins ces aspects de cette tradition des hommes, soient abattus. Rappelez-vous, c'est le reproche que Jésus fait aux pharisiens de son temps, quand il les accuse d'annuler la parole de Dieu par leur tradition morte. Hein, là aussi, et c'est seulement dans la parole de Dieu qu'on trouve la vie véritable. Amen. Et puis vous avez enfin, verset 15, la destruction de l'autel de Bethel. Rappelez-vous, en son temps, en temps de Jéroboam, ils avaient construit un veau en fonte qui était censé représenter Dieu. Et Moïse qualifie cela de grand péché. Hein, donc il avait déjà eu une première tentative dans le désert au pied du mont Sinaï. Là, c'était un veau en or. Hein. Moïse avait qualifié ça de grand péché. Pourquoi ? Parce qu'on prétend rabaisser Dieu à quelque chose qu'on peut voir, quelque chose qu'on peut sentir, quelque chose qu'on peut toucher. Et voilà une idolâtrie qui doit être vraiment rejetée parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Qu'ils l'aiment et le servent ainsi de tout leur cœur et de toute leur âme. Voyez-vous que toutes les idoles donc qui puissent être bannies, chassées, détruites de nos cœurs et que le Seigneur seul soit aimé et glorifié. Amen. Et puis, Arrivons-en à considérer aussi qu'au verset 17 et 18, Dieu va donner un grand encouragement à Josias. Hein, voyons cela. Alors qu'il est engagé dans cette grande œuvre, qui doit être quelque part harassante, fatigante, voilà qu'on lui rappelle la parole prophétique de l'homme de Dieu qui était venu bien des années auparavant, dans cet endroit, parler contre l'autel de Bethel, et qui avait annoncé la venue de Josias en nommant Josias, donc c'était bien avant sa naissance. Bien avant même sa naissance. Donc. Et on lui parle aussi des miracles qui s'étaient accomplis ce jour-là. Hein, c'est-à-dire que cet autel, suite à la parole du prophète, avait été fendu. La main de Jéroboam qu'il avait voulu tendre contre le prophète avait été séchée sur place. Et puis comme il avait supplié le prophète de prier pour lui, eh bien, la main avait été guérie. Trois beaux miracles donc, hein. Trois beaux miracles, et ça a été certainement un grand encouragement pour Josias à aller jusqu'au bout de cette œuvre, et donc à revenir au Seigneur de tout son cœur et de toute son âme. Si Josias n'avait pas entrepris ce travail, si Josias s'était lassé avant, est-ce que Dieu l'aurait encouragé ainsi? Ben non, certainement pas. Il a fallu qu'il en arrive à ce point-là, et combien il est nécessaire, là aussi, frères et sœurs, quand nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu, c'est là que nous voyons des encouragements de la part du Seigneur. Vous savez, il y a trop de gens, ils se disent, moi je me convertirai, ou moi je m'engagerai, quand j'aurai vu ceci, quand j'aurai eu cela, quand j'aurai vu un miracle, quand j'aurai vu une réponse de Dieu, etc. Vous savez, vous risquez fort de ne rien voir. Peut-être même que Dieu fera des choses admirables et que vous ne les verrez même pas, parce que l'incrédulité vous aveuglera. Et c'est très possible que ce soit comme ça. Mais si vous vous engagez dans la voie du Seigneur, si vous vous engagez dans ce même chemin qui nous est exemplarifié ici, eh bien, à ce moment-là, vous verrez que le Seigneur vous encouragera. Et il le fera, je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera en tout cas par sa parole, et puis il le fera par son esprit, et puis par des exaucements, et puis par des confirmations, et puis par des signes et des prodiges et des miracles. Béni soit son nom. Amen. Et puis finalement, vous voyez que Josias a pu réaliser comme jamais l'œuvre du Seigneur. Parce que tout ce travail préliminaire de nettoyage, de purification, eh bien, c'est ce qui a permis la mise en œuvre d'une Pâque magnifique qui est décrite du verset 21 au verset 23. Et rappelez-vous, la Pâque, c'est l'annonce prophétique du sacrifice de Christ. C'est l'annonce prophétique de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça parle de sa mort, ça parle de sa résurrection, pour le pardon des péchés, pour le salut de notre âme et pour la guérison de notre corps. Amen. Et ce n'est pas un hasard si cette Pâque fut exceptionnelle et si Dieu approuva et bénit ainsi Josias. Quelle allégresse, quelle joie, quel transport céleste. Combien il est vrai que ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés de rien. Et que Dieu va mettre dans leur cœur sa joie parfaite, et que Dieu va agir, et que Dieu va pouvoir bénir en abondance. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est bon, il est précieux de revenir à Dieu, de revenir au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Comme Josias l'a fait. Certains se posent la question, mais comment faire pour revenir au Seigneur? Eh bien voilà, vous avez la démonstration ici. Vous avez l'exemple sous nos yeux, dans ce passage, dans ce texte. Et ça, c'est véritablement la garantie de la véritable et pleine bénédiction. Amen. Alléluia. Allez, on va prier. Te remercions, Seigneur, parce que tu es encore le Tout-Puissant, le Vivant et le Vainqueur. Nous te remercions parce qu'en ce jour encore, eh bien, tu veux véritablement encourager chacune et chacun d'entre nous à examiner son âme, à examiner sa vie. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as fait un tel retour vers le Seigneur? Est-ce que dans ta vie, il en a véritablement été ainsi? Est-ce que tu as véritablement considéré la parole de Dieu pour t'attacher à cette parole de Dieu, pour le faire vraiment de tout ton cœur? Alléluia. Si tu veux le faire, eh bien, de tout ton cœur, eh bien, tu peux lever ta main maintenant encore et on va prier pour toi, mon frère, on va prier pour toi, ma sœur. Alléluia. Est-ce que tu as vraiment fait une alliance avec le Seigneur qui est basée sur cette parole pour y obéir? Est-ce que tu as fait ce travail pour chasser les idoles de ton cœur, les idoles depuis de ta vie, pour que tu puisses véritablement entrer dans ce chemin de bénédiction et dans ce chemin de salut que Dieu veut pour toi. Alléluia. Que le désir de Dieu pour toi Est-ce que tu as voulu? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire vraiment avec résolution, avec détermination? Eh bien, si tu veux le faire, eh bien, tu peux lever ta main. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur encore de visiter chacune et chacun de ses bien-aimés. C'est toi, Seigneur le Tout-Puissant. C'est toi qui vois ces bien-aimés, qui lèvent leurs mains, Seigneur, qui élèvent leurs âmes, qui élèvent leur cœur vers toi tout en même temps, Seigneur. Et nous te les remettons encore maintenant, alléluia, pour que tu les secours puissamment, Jésus, pour que tu les soutiennes, pour que tu les accompagnes dans cette belle et grande œuvre, Seigneur, pour que véritablement ils puissent aussi expérimenter les encouragements que tu donnes à ceux qui s'engagent pour toi, Seigneur, pour qu'ils puissent ressentir et réaliser l'approbation que tu veux donner sur leur vie et sur les choix qu'ils font, sur les décisions qu'ils prennent. Merci, Seigneur, pour ta grande grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton œuvre puissante et bénie. Nous te louons et te glorifions encore maintenant, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, je vous rappelle aussi simplement voilà, que, d'abord les annonces, le mariage d'Ouché et de Joy demain, donc il y a la mairie à 13h30, mais je ne sais pas si c'est pas limité, je ne sais pas. 15h30, salle des fêtes de Saint-Mémy. Hein. Donc, culte dimanche à 8h30, puis à 10h45. Je rappelle, oui, je vois que c'est quand même le cas, mais tous les enfants maintenant de niveau école primaire, ben, il faut qu'ils portent un masque aux réunions. Hein. Donc, voilà. Donc, il n'y aura pas d'évangélisation dans les villages demain après-midi, exceptionnellement, vu qu'il y a le mariage. Et puis, voilà. Je crois qu'on va... Amen. Que le Seigneur vous bénisse.